Bonjour à toutes et à tous. Mes cinq collègues co-organisatrices de ce colloque, Jennifer Boitin de Penn State University, Jacqueline Couty de Rice University, Lucia Dierenberger du CMH, Rosine Dengue de l'Université de Rouen et Myriam Paris de l'Université Paris 1, nous voudrions toutes vous remercier chaleureusement de votre présence ici aujourd'hui. À toutes les intervenantes et à tous les intervenants qui vont s'exprimer durant ces deux jours successivement, ces deux jours et demi, nous voulons également exprimer une reconnaissance sincère pour nous avoir fait l'honneur de partager avec nous leurs travaux, leurs réflexions et leurs expériences, et donc de les présenter devant vous ici, dans cet auditorium du campus Condorcet. Avant que je m'attarde sur les motivations et les enjeux scientifiques de ce colloque, je tiens à dire quelques mots du contexte académique, mais aussi plus globalement du contexte social et politique dans lequel nous nous trouvons actuellement en France. Depuis le 5 décembre dernier, en effet, un important mouvement social réunissant un large spectre de secteurs professionnels allant du service public aux professions libérales, en passant par le secteur des métiers des arts et des spectacles ou des professions du nettoyage et du bâtiment, s'oppose énergiquement au projet de réforme des retraites du gouvernement d'Édouard Philippe sous l'autorité d'Emmanuel Macron. Partie prenante de ce mouvement, dès les premiers jours, les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'ESR, dans toute la variété des métiers et des positions qu'ils et elles occupent, ont amplifié leur mobilisation sous l'effet d'un rejet massif d'un autre projet de loi du gouvernement qui cible plus particulièrement le secteur, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, dite LPPR, loi qui vise à institutionnaliser davantage la mise en concurrence des chercheurs par l'accroissement de la part accordée au financement sur projet, de la hiérarchisation et de la différenciation des acteurs qui produisent et qui font vivre la recherche, notamment par le renforcement de la précarisation de ces métiers. Cette mobilisation intense trouvera cette semaine, quelques jours après que le gouvernement a recouru à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer en force sa réforme des retraites, son point d'orgue le 5 mars, à travers une journée d'arrêt total de l'université et de la recherche. Afin de nous inscrire dans ce mouvement général de résistance à ces projets gouvernementaux, nous, organisatrices, avons quelque peu modifié la programmation de ce colloque ce jour-là, invitant en cela chacun ici à porter sa voix et son énergie aux multiples manifestations prévues pour dire non à la précarisation accrue de la recherche. Il était important pour nous de relayer cette mobilisation en cours, d'autant qu'indirectement, et donc sans anticipation de notre part, la tenue de ce colloque dans son type d'organisation et par son objet même rejoint quelques-uns, et donc partiellement, des enjeux des luttes actuelles. Il n'est sans doute pas faux de dire que dans une certaine mesure, la conception et la préparation de ce colloque appartiennent à un temps incertain de la vie académique, à la fois temps déjà obsolète et promis à ne plus advenir. D'abord, parce que ce colloque n'est pas le fruit d'un dispositif de financement de la recherche sur projet, mais d'une simple coopération scientifique entre chercheuses titulaires et non titulaires, travaillant au-delà des liens d'amitié et des affinités intellectuelles sur des thématiques de recherche proches ou tout du moins convergentes. Ensuite, les contours géographiques de son objet. La mise à l'épreuve d'un récit hégémonique du féminisme par les politisations multiformes des femmes anciennement colonisées d'une partie de l'Empire français, j'y reviendrai, nous ont invités à questionner avec force la symétrie des conditions de production et de circulation surtout, des savoirs entre chercheurs du Nord et chercheurs du Sud, et plus singulièrement à prendre au sérieux la marginalisation, voire la disqualification au Nord des savoirs produits au Sud sur les Suds. Car sur le sujet qui nous occupera durant ces deux jours et demi, il semble que les anciennes hiérarchies politiques et sociales se reconfigurent dans des hiérarchies épistémiques et académiques contemporaines. Si un colloque à lui seul ne fait pas œuvre de transformation sociale, nous avons cherché, de façon modeste, à établir une éthique d'accueil, je pourrais dire en reprenant le vocabulaire d'Edouard Glissant, une éthique de la relation, vis-à-vis de nos collègues venus d'une université des Suds, en leur offrant, non sans difficulté, une prise en charge partielle de leur voyage et de leur séjour à Aubervilliers pour ces quelques jours. Je le précise moins pour chercher à nous envoyer des fleurs que pour souligner combien ce type de pratique, encore assez libérée du cahier des charges de technostructures nationales ou européennes, à qui est de plus en plus confié le soin de définir a priori les finalités de la recherche, seront rendues plus difficiles par les projets gouvernementaux qui se préparent actuellement pour l'ESR. Cette requalification contemporaine de rapports anciens dans le champ du savoir traverse en effet le constat suivant à l'origine de l'initiative de ce colloque. Si les études de genre et les recherches féministes françaises ont largement contribué à rompre avec les récits androcentrés de l'histoire, elles continuent pour une part importante à rester aveugles aux rapports imbriqués entre genre, statut colonial, avec son effet entre autres d'exploitation et de racialisation, et appartenance nationale. La production scientifique continue de tenir une femme européenne blanche en idéal type du sujet féminin de l'histoire. Fait pour le moins paradoxal, la réception en France de la notion états-unienne d'intersectionnalité, outil analytique permettant de penser une combinatoire d'oppressions coextensives qui peuvent être fondées sur le genre, la classe, l'assignation à la race et bien d'autres déterminants de position dans des rapports sociaux, cette réception n'a pas entraîné en retour de réflexivité ni de critique sur l'identité sociale, mais surtout sur l'historicité plurielle et multisituée de ce sujet féminin de l'histoire dans une société anciennement impériale qui continue d'entretenir des liens politiques et culturels complexes, ambigus, avec ses anciennes colonies, qu'elles soient devenues statutairement indépendantes ou non. Au contraire, ce tournant intersectionnel opéré au début des années 2000 s'est progressivement transmué en ce que j'appellerais un décentrement-recentrement. Tout en se réclamant de l'intersectionnalité, la production scientifique continue d'occulter les outils pratiques et théoriques que les femmes issues des anciennes colonies françaises, dont l'identité sociale fut, à ce titre, marquée du rapport social de race, forgèrent pour se constituer en sujet politique, obligeant par là à élargir l'imagination intellectuelle de l'émancipation des femmes. En outre, si l'engouement grandissant pour les théories du point de vue situé et le black feminism états-unien nourrissent les réflexions épistémologiques, un des effets remarquables et problématiques de la traduction en français de ce dernier en féminisme noir est sa constitution en parangon des expressions féministes subsahariennes, qu'elles concernent l'Afrique et ses diasporas, interdisant en cela de penser l'hétérogénéité des sujets féminin catégorisé comme noir. C'est donc en réponse à ce triple réductionnisme, celui de l'ethnocentrisme, de l'occultation et de la marginalisation, fermant tout à la fois d'une disqualification des sujets historiques et des savoirs comme objets dignes de pensée, que ce colloque s'est présenté à nous comme nécessaire. Loin de se réduire à penser contre, une telle démarche oblige plutôt à interroger le contenu et la portée du terme même de féminisme, et notamment son projet émancipateur, au regard d'expériences historiques, mais aussi de luttes politiques, qui engagent l'affirmation des femmes en tant que sujet historique et politique, quand bien même elles ne recourent pas au mot de féminisme. Autrement dit, il s'agit dans le fond d'explorer les modes de constitution historique du sujet femme comme sujet de pouvoir, dans des contextes situés qui sont ceux des femmes africaines, des femmes caribéennes, comme celles, par exemple, des militantes de l'Union des femmes de la Martinique qui politisent leur position à la fois de travailleuses agricoles après la Seconde Guerre mondiale et en même temps de mères dans leur quête d'accession aux droits sociaux, mais aussi des femmes de l'océan Indien qui, dans l'Union des femmes de la Réunion, s'inscrivent dans des luttes similaires, ainsi que les femmes catégorisées en France et en Europe comme africaines ou noires. Je pense notamment à la forte mobilisation des femmes de ménage de l'hôtel Ibis, qui à la fois politisent leur position de travailleuse, mais recourent au vocabulaire politique de la dignité, et par là de la dignité, de leur dignité à la fois comme travailleuse et comme sujet féminin, en soulignant leur désir de laisser à leurs enfants des exemples de sujets, de femmes debout, revendiquant un traitement plus juste quant à leurs conditions sociales de travail. Tous ces contextes invitent, on l'aura compris, à prendre des distances avec les généralisations homogénéisantes ou essentialistes de la catégorie femmes noires. Dans le sillage de questions importantes soulevées par la sociologue Chandra Mohanty, la question qui se pose à travers les communications qui vont se succéder durant ces deux jours et demi prend l'articulation suivante. La catégorie de genre suffit-elle à faire cause commune ? Plus encore, l'assignation commune à l'altérité africaine ou noire suffit-elle à faire cause commune ? Quelles sont les conditions sociales et politiques, dans un troisième temps, d'une politisation transnationale pour des femmes soumises à des rapports d'oppression hétérogènes, étroitement liés à des contextes sociaux et historiques précis. Autrement dit, à travers ce colloque, nous avons voulu ouvrir une conversation entre Nord et Sud sur les conditions d'intelligibilité et d'enrichissement d'une épistémologie de la subjectivation politique et autrement dit d'une épistémologie de l'émancipation. Je ne pourrais pas terminer ce bref propos introductif sans nommer les personnes qui nous ont aidés à créer physiquement et matériellement les conditions d'ouverture de cette conversation à plusieurs voix, cette conversation transnationale et je dirais transcontinentale. Personnes ici présentes, pour certaines dans la salle et d'autres qui ne sont pas là, mais que je tiens quand même à mentionner. Avant les personnes, je voudrais quand même remercier les institutions et en l'occurrence l'IRIS, mon laboratoire depuis maintenant un an, où j'ai trouvé un accueil et une écoute attentive à ce projet. Rice University, le centre Moïse Alvax, l'Université d'État de Pennsylvanie, l'African Feminist Initiative, l'Institut universitaire de France et les personnes suivantes, Tyler Stovall, Lionel Zevounou, Carmen Mata, Issa Cissé, Estelle Girard, Hélène Bergerac, Laetitia Gonzalez et sans oublier Gaëlle Aminata Collin, qui a bien voulu porter son énergie et sa disponibilité pour filmer les deux jours et demi de ce colloque. Je n'ai pas voulu être très longue afin de laisser la place pour la présentation des communications. Nous attendons donc Fatou Sow qui va venir ouvrir la journée de présentation des travaux. Merci à vous.